Europe 1. Écoutez le monde changer.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour, bon dimanche. La tension est encore montée d'un cran entre la Chine et les États-Unis depuis l'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche. Mais pas besoin de commencer à creuser un abri anti-nucléaire dans son jardin. Il s'agit d'une guerre économique. Ali Laidi, qui vient de publier Les batailles du commerce mondial, est en direct avec nous ce matin. Et puis Emmanuel Macron a finalement décidé qu'il commémorerait le 5 mai prochain le 200e anniversaire de la mort de Napoléon. Ce n'était pas gagné, l'empereur est devenu une figure historique controversée. Il est accusé de tous les maux. Alors l'historien Thierry Lenz, l'auteur de Pour Napoléon, sera là pour remettre les pendules à l'heure. Et l'on terminera l'émission avec l'actrice Aïssa Maïga pour son premier film en tant que réalisatrice, Regard Noir. Ali Laidi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en sciences politiques, chercheur à l'école de pensée sur la guerre économique. Vous êtes l'auteur d'une histoire mondiale de la guerre économique chez Perrin et vous venez de publier Les batailles du commerce mondial au PUF. Alors on parle de l'escalade de la tension entre la Chine d'un côté, les États-Unis et l'Europe de l'autre. On sous-pèse même les risques d'un conflit armé. C'est parce que l'on se refuse à penser les affrontements économiques ?
C'est très clair, hein. Je veux dire que ce qui se passe aujourd'hui entre Pékin et Washington, c'est un affrontement économique très fort qui pourrait, le cas échéant, évidemment déborder sur un affrontement militaire pur et dur. Et c'est souvent cela dans l'histoire, hein. Quand vous reprenez l'histoire, la veille de la Première Guerre mondiale, il y avait des tensions très très fortes entre d'un côté la Grande-Bretagne, la France et de l'autre l'Allemagne. Donc il y a toujours ces événements qui précèdent la violence militaire. Et en ce moment, en effet, on est dans un cas où les États-Unis ont décidé de réagir à l'ambition de puissance de la Chine. Et regardez quel est le premier geste du président Joe Biden lorsqu'il arrive le 20 janvier à la Maison-Blanche. Eh bien, il se rend au Pentagone, donc le département de la défense américaine, il se rend au Pentagone pour demander une analyse critique pour faire face à la puissance chinoise. Donc il va pas au département du commerce, il va au Pentagone pour qu'on lui donne des conseils afin de faire face à la Chine. Et de l'autre côté, il y a encore quelques semaines, le président Xi Jinping en Chine réunissait le Parlement et proposait un 14e plan quinquennal qui lui est fondé sur quoi ? Sur l'autonomie stratégique. Donc, tout faire pour ne plus avoir de lien avec les États-Unis et plus largement même avec le monde occidental. Donc oui, là on est rentré dans une phase, j'allais dire, assez critique de l'affrontement économique entre la Chine et les États-Unis, parce qu'en face aux États-Unis, il y a bien une trajectoire identique entre l'administration républicaine de Trump et l'administration démocrate de Biden.
La guerre économique, c'est un concept qui a du mal à s'imposer. Ça n'existe pas pour la plupart des penseurs. La plupart des penseurs de gauche, comme de droite d'ailleurs, n'y font jamais référence. Les deux termes semblent antinomiques. Soit on commerce, soit on fait la guerre.
Oui, c'est vrai. Dans toute l'histoire de la littérature sur les sciences politiques, on ne trouve aucune occurrence sur la guerre économique, sur ce qu'est ce concept de guerre économique, ni de grands auteurs, ni d'auteurs moyens n'ont réfléchi à cette question-là. Il y a une explication assez simple, c'est que depuis Montesquieu, donc il y a un peu plus de 3 siècles, on estime que le commerce adoucit les mœurs. Plus il y a de commerce entre les nations, moins il y a d'affrontements violents. Simplement, ce qu'on oublie de penser, c'est que on estime, avec cette vision de Montesquieu, que la violence est le monopole du champ politique. Or, tout nous montre, dans toute l'histoire de l'humanité, que la violence existe également dans le champ économique. Et c'est ça qu'on a oublié de penser depuis des siècles et des siècles, c'est de penser cette violence qui existe dans le champ économique et qui peut évidemment déborder totalement dans le champ politique à travers des guerres plus classiques, plus conventionnelles.
Et si on lit vos livres, Ali Laidi, depuis le Moyen-Âge, la guerre économique n'a jamais cessé, en temps de guerre comme en temps de paix.
Oui, c'est vrai. Moi, je pars du néolithique, rendez-vous compte. Je prends évidemment, je m'appuie sur des travaux de grands universitaires, comme Laurence Killy, par exemple, qui travaille sur les guerres préhistoriques. Et il nous dit quoi? Il nous dit que dès la préhistoire, dès le néolithique, entre 70 et 85% des causes d'affrontements entre tribus, entre groupes, sont dues à des questions d'économie, donc à des questions de subsistance. Et après, je remonte le fil de toute l'histoire, l'Antiquité, la puissance de Rome face à Carthage, par rapport à l'affrontement notamment sur les blés, les grandes compagnies des Indes orientales qui se sont fait une guerre terrible pour accéder soit à l'or de l'Amérique, soit aux épices de l'Inde, à partir de la découverte de la route via le Cap de Bonne-Espérance en 1497. Bref, je montre que la guerre économique est aussi vieille que le temps. Et pourtant, c'est vrai, jamais le monde académique, universitaire, s'est emparé de cette question pour en détacher toute la polémologie et nous avertir, nous prévenir des dangers de cette conflictualité.
En fait, si vous prenez le monde universitaire, on voit la Chine comme un partenaire commercial. Ça ne peut donc pas être un ennemi. Vous nous dites au contraire que c'est parce que c'est un partenaire que c'est un ennemi.
Je dis simplement que on s'est trompé en 2001 lorsqu'on a accueilli la Chine à l'OMC en pensant toujours sur des vieilles visions théoriques économiques, celles de Ricardo, les avantages comparatifs. Si moi je fais du bon vin et toi des bons draps, ben on a intérêt à s'échanger. On a cru que la Chine allait rester une puissance capable uniquement de fabriquer des t-shirts. Non, mais alors que la Chine c'est une très très vieille civilisation, donc il était évident en 2001 quand on a accueilli la Chine à l'OMC que la Chine allait prétendre à être puissante sur tous les segments de l'économie, pas seulement sur le textile, mais aussi sur l'aéronautique, sur le numérique, sur l'industrie, sur la finance, etc. Et on n'a pas pensé ça. On a vraiment cru que la Chine resterait l'atelier du monde. Eh bien, du coup, on s'aperçoit aujourd'hui que la Chine a des désirs, a des volontés de puissance, comme nous en avons, nous, Européens, et que forcément, comme il y a de plus en plus d'acteurs pour grignoter une partie de ce gâteau, mais que ce gâteau est le même, eh bien, il y a des tensions économiques pour pouvoir capter un maximum de marché.
On fait une pause d'une minute trente. Ali Laïdi, on se retrouve juste après.
Europe 1, c'est arrivé demain. Frédéric Taddeï.
Vient de faire paraître les batailles du commerce mondial aux presses universitaires de France. Vous travaillez sur ce sujet, la guerre économique, depuis 25 ans. Vous êtes devenu un véritable théoricien. Alors, c'est quoi la guerre économique? Vous pouvez nous la définir comment?
Alors c'est difficile, hein, comme je vous le disais, vu que le monde académique s'est pas emparé de cette question-là, moi j'amène ma propre définition dans la thèse que j'ai soutenue en 2009. Et je dis en gros, la guerre économique, c'est l'utilisation de moyens illégaux et ou déloyaux dans la perspective de conquérir ou de préserver un marché. Et j'ajoute évidemment que la guerre économique existe à la fois en temps de paix et en temps de guerre. En gros, pour résumer, la guerre économique, c'est le recours à la violence dans les relations commerciales entre partenaires.
Au fond, on parle beaucoup du choc des civilisations et on ne parle pas assez du choc des puissances économiques. Hein. La Chine, les États-Unis, l'Europe, aujourd'hui, ce sont des puissances économiques qui s'affrontent.
Oui, et toute ma question que j'ai posée dans un livre publié en 2006, c'est qu'est-ce qui est le plus important à votre avis ? Le choc des civilisations qui se caractérise par la problématique du terrorisme ou le choc des puissances qui est, à mon avis, beaucoup plus structurant pour notre monde et notre trajectoire mondiale. Moi, dans ce livre, j'explique que le terrorisme, quand on y plaque une analyse politique, alors peut être relié au choc des puissances, en montrant que il y a une zone dans le monde entier qui n'a pas profité réellement du vent de liberté qui a soufflé en 89. C'est le monde arabo-musulman, où on trouve difficilement des puissances économiques capables de jouer le jeu de la mondialisation, et où on trouve difficilement également des démocraties qui offrent au peuple la possibilité de s'exprimer. Donc moi, en effet, je relie dans mes travaux le choc des civilisations au choc des puissances, et je dis que c'est sans doute le choc des puissances qui explique en partie le choc des civilisations.
Ali Laïdi, la Chine aujourd'hui a une véritable stratégie économique à la fois offensive et défensive.
Oui, elle l'a depuis bien longtemps. On peut même la remonter. Alors, les experts le font remonter à 78, l'arrivée de Xi Jinping, de Deng Xiaoping. Moi, je pense qu'on peut même remonter avant, au moment, dans les années 60, de la rupture sino-soviétique, avec une réflexion de Mao Tse-Tung sur comment préserver les intérêts du pays en le réindustrialiser dans une perspective de l'industrie lourde soviétique, etc. Mais c'est vrai que la vraie rupture, elle a lieu en 78 avec l'arrivée de Deng Xiaoping, avec une vraie réflexion sur comment rester communiste politiquement, mais jouer le jeu de l'économie de marché avec l'Occident. Et à partir de là, on sent en effet, dès la fin des années 70, qu'il y a une vraie stratégie qui est mise en place par nos amis chinois, qui part évidemment de l'appareil d'État, et dans l'appareil d'État, plus particulièrement les services de renseignement et de sécurité, qui dès ces années-là se mettent à réfléchir sur la meilleure façon d'aller capter l'information économique, scientifique, technologique, en regardant un modèle qui est celui du Japon à l'époque. Donc les Chinois vont regarder le modèle japonais, vont le dupliquer en y ajoutant un autre mix qui est le mix de l'école d'intelligence économique américaine, plutôt agressive, et avec évidemment un héritage chinois de la culture stratégique qui remonte au 4e siècle avant Jésus-Christ, dont l'auteur le plus cité est le fameux Sun Tzu, avec l'art de la guerre, avec un principe très fort, hein, comment conquérir sans se battre. Comment conquérir sans affronter? Et c'est ce qui se passe depuis 2001. On s'en aperçoit qu'aujourd'hui, mais depuis l'entrée à l'OMC de la Chine, on a vu en effet comment la Chine remportait des marchés sans s'affronter. Là, on passe à une autre phase. On passe à la phase de l'affrontement entre la Chine et les États-Unis.
Alors, les États-Unis, ils ont eux aussi une stratégie économique offensive et défensive?
Oui, très forte aussi. Dès la naissance de la nation, il y a une réflexion d'abord très protectionniste. Hein, comment protéger nos sociétés, nos entreprises qui vont naître par rapport aux puissances que sont à l'époque la France et l'Angleterre. Hein, Alexander Hamilton, le premier secrétaire au Trésor, est très protectionniste des industries américaines. Et tout ça va se prolonger jusqu'à la chute du mur de Berlin, où en 93, le Warren Christopher, secrétaire d'État, va devant le Congrès américain et dit tout simplement « Nous voulons les mêmes moyens que nous avons eus pendant la guerre froide pour lutter contre l'Union soviétique, nous voulons ces mêmes moyens pour faire face à la compétition économique mondiale qui commence. » Donc il y a une vraie stratégie à Washington concernant la guerre économique, tout comme il y en a une en Chine, tout comme il y en a une en Russie, tout comme il y en a une au Japon.
Et pas en Europe?
Et pas en Europe, absolument pas. Quand vous allez à Bruxelles, c'est très simple. Vous allez à Bruxelles et vous demandez aux fonctionnaires quels sont les textes sécuritaires, quelle est la doctrine sécuritaire de l'Union européenne. Ils vont vous sortir des textes sur la lutte contre le terrorisme, évidemment, la lutte contre la prolifération nucléaire. Maintenant apparaissent des textes sur la lutte contre le changement climatique qui implique des migrations importantes. Mais quand vous leur dites à un moment, quels sont les textes de sécurité économique de près de 450 millions de citoyens européens, eh bien, il n'y a absolument rien. Il n'y a pas de réflexion. Résultat, l'Europe et Paris et Berlin et tous les pays européens sont constamment en réaction par rapport aux attaques, aux agressions, qu'elles viennent de l'Ouest, de nos amis américains, ou qu'elles viennent de l'Est, de nos amis chinois.
Alors, il nous reste qu'une minute trente, Ali Laïdi, mais on peut dire que la guerre économique, c'est pas seulement entre les nations, entre les puissances économiques, c'est aussi entre les grandes entreprises.
Ah, mais c'est complètement aussi entre les grandes entreprises. Regardez quelques exemples très forts. Hein. L'histoire du pétrole, c'est d'abord des très grandes batailles entre les pétroliers, au premier rang desquels le Rockefeller, ce qu'on appelait le requin blanc, hein, qui a fait le ménage d'abord aux États-Unis pour devenir le numéro un avec des méthodes très très agressives et très violentes, puis qui après a essayé aussi de faire le ménage dans le monde à travers la coalition des sept sœurs qui ont été les 7 plus grandes majors du pétrole. Et puis aujourd'hui, si on prend un exemple dans la pharmacie est un secteur très particulier en ce qui concerne la guerre économique, parce que c'est un secteur qui dégage beaucoup de cash, et ce cash est réinvesti dans ce qu'on appelle l'intelligence économique, c'est-à-dire l'étude de l'environnement concurrentiel. Et dans cette étude de l'environnement concurrentiel, évidemment, beaucoup d'argent est utilisé pour faire de l'offensive, donc des attaques entre concurrents qui vont très très loin, puisque c'est essentiellement des attaques en guerre de l'information qui consistent évidemment à décrédibiliser son concurrent. Donc oui, la guerre économique, c'est un rapport entreprise-entreprise, c'est un rapport État-État, mais c'est aussi un rapport État-entreprise, puisque un certain nombre d'États soutiennent leurs propres champions pour les aider à conquérir ou à préserver des marchés.
Merci Ali Laïdi. Je rappelle que Les batailles du commerce mondial, votre nouveau livre, vient de paraître au PUF. On se retrouve dans un instant avec l'historien Thierry Lenz.
Europe 1, c'est arrivé demain. Frédéric Tadéhi.
Bonjour Thierry Lenz.
Bonjour.
Emmanuel Macron va commémorer le bicentenaire de la mort de Napoléon le 5 mai, mais l'empereur est devenu une figure controversée de l'histoire de France. C'est pour ça que vous, historien, directeur de la Fondation Napoléon, vous publiez Pour Napoléon chez Perrin. Alors, ce n'est pas tellement que vous êtes un inconditionnel de Napoléon Ier, mais c'est une manière pour vous de répondre point par point à tous les procès qui sont faits à Napoléon depuis quelques temps. Ça avait commencé au fond avec Jacques Chirac, hein, il faut rappeler, qui a refusé de commémorer la victoire d'Austerlitz en 2005, mais qui a envoyé un porte-avions pour célébrer la défaite de Trafalgar. C'était quand même énorme.
C'était très original.
Oui. Est-ce que vous avez eu l'occasion? Est-ce que vous savez pourquoi Jacques Chirac avait reculé à ce point ou...
Alors écoutez, il se trouve que je connais un petit peu Dominique de Villepin et j'ai jamais réussi à avoir la vraie explication.
Qui est un grand admirateur.
Voilà, alors lui, ce jour-là, il était allé faire un discours sans doute très important dans une chambre de commerce en région. Alors évidemment, c'est important les chambres de commerce, mais il voulait pas être à Paris pour le 2 décembre 2005. Ouais.
Alors que lui reproche-t-on à Napoléon aujourd'hui, qu'on ne lui reprochait pas au moment du bicentenaire de sa naissance en 1969, mais d'avoir été un tyran sanguinaire?
Oui, alors ça c'est un slogan, une expression qui correspond pas à la réalité de ce qu'a été le régime, qui en gros a commencé l'acclimatation de l'état de droit. Je sais que ça pourra paraître paradoxal, mais je pourrais le démontrer si on avait beaucoup de temps.
Oui, mais c'est important de le dire, c'est vrai qu'à cette époque-là, la France est quasiment le seul pays qui a un état de droit.
Exactement, et bien souvent, Cambacérès, le numéro 2 du régime... signale à Napoléon que « Ah ben non, ça vous pouvez pas le faire parce que la loi ne l'autorise pas et Napoléon ne le fait pas. » Donc il n'y a pas eu ni de dictature, ni de tyrannie, il y a eu un régime autoritaire, ça bien sûr on peut pas le contester, mais il y avait quand même quelques garde-fous, et là, d'ailleurs la preuve par l'absurde, c'est que ce sont les chambres qui ont renversé Napoléon en 1814.
Est-ce que Napoléon a bâillonné l'opposition? Est-ce qu'il a réduit le peuple au silence?
Alors,
parce que c'est ça un dictateur.
À la fois oui et non, c'est-à-dire que lorsqu'il arrive au pouvoir, la France est dans une situation un petit peu compliquée. Hein. C'est la guerre civile d'abord à l'intérieur, ensuite pas de finances publiques, guerre extérieure avec une douzaine de nations, et donc à ce moment-là, le régime est naturellement et de façon très acceptée autoritaire. Alors le problème de Napoléon, c'est qu'il a jamais mis la marche arrière sur ce sujet, et que évidemment à partir du moment où la pacification a été réalisée, c'est-à-dire 1804-1805, il aurait pu relâcher, mais bon, il avait des tendances autoritaires, et puis surtout, il avait un très mauvais souvenir de la liberté politique absolue de l'époque conventionnelle, où la presse, où le peuple lui-même exerçait une sorte de pouvoir anarchique, et donc son souci principal, c'était l'ordre public, et donc on peut dire qu'en effet, le régime a été autoritaire, mais très probablement pas une dictature, et encore moins une dictature militaire, puisque les militaires ne servaient qu'à commander des troupes à ce moment-là.
Vous dites, Thierry Lenz, qu'il ne sanctionnait jamais durement ceux qui s'opposaient à lui, ou même qui complotaient contre lui, comme Talleyrand ou Fouché, qui étaient ses ministres, et que ça n'empêchait pas de comploter.
Non, bah, écoutez, il y a une exécution à l'intérieur de la France, une exécution, on va dire politique, c'est celle du duc d'Enghien, en mars 1804, Elle intervient pour des raisons un petit peu compliquées, mais disons que c'est aussi un appel du pied que fait Napoléon aux républicains, en leur disant, écoutez, regardez, je suis aussi capable d'avoir du sang royal ou du sang très bleu sur les mains. Mais bon, pour le reste, écoutez, on donne deux chiffres, généralement 2500 prisonniers dans les prisons d'État qui n'étaient pas forcément des culs de basse fosse. Hein. Il y avait parfois des prisonniers d'État qui avaient plusieurs pièces et des domestiques. Hein. Simplement, on les mettait un petit peu à l'écart. Et puis, face à ça, ben, on va donner les chiffres de la Convention. 20 000 exécutions pendant la Terreur et 500 000 arrestations à peu près à la même époque. Donc, bien sûr, on peut analyser ou reprocher, si l'on veut, à Napoléon ce type de comportement, mais le faire au nom de la Convention et de Saint-Robespierre, c'est peut-être un peu excessif.
De même, vous comparez, vous donnez l'exemple des ouvriers qui se mettent en grève sur la construction de l'Arc de Triomphe en 1810. Vous dites qu'au fond, alors, ben, racontez-vous-même.
Oui, alors écoutez, il y a deux événements à peu près simultanés en Angleterre et en France à cette époque-là. D'abord, à Paris, la grève pour la construction alors d'un faux Arc de Triomphe, parce que Marie-Louise va faire son entrée, donc on fait bosser les ouvriers un petit peu plus fort. Ils se mettent en grève pour avoir une augmentation. Alors le meneur est éloigné à 40 lieues de Paris.
Ce que faisait souvent Napoléon. Hein. Voilà, il n'était pas ses opposants en prison, il les
éloignait de Paris. Les ouvriers sont augmentés. Au même moment, en Angleterre, il y a des ouvriers du textile qui brisent des machines, qui se mettent en grève contre la mécanisation et la concentration industrielle. Et là, on en pend 60. Donc, vous voyez, le côté régime sanguinaire n'est pas toujours du côté où on croit le trouver.
Effectivement. De même, on reproche à Napoléon d'avoir supprimé les libertés, mais existaient-elles avant qu'il arrive au pouvoir ?
C'est toute la question, évidemment. On est dans une période extrêmement troublée au niveau intérieur, qui fait que tous les régimes, que ce soit même le régime de 91, donc la monarchie constitutionnelle, mais évidemment la Convention et le Directoire, sont obligés d'agir avec des expédients. Le Directoire, par exemple, c'est un coup d'État constitutionnel tous les ans, à chaque élection, il y a un coup d'État. Alors, soit les chambres contre l'exécutif, soit l'exécutif contre les chambres. Bon, ce sont des régimes qui sont extrêmement instables. Et on va dire que le mérite, si on peut parler de mérite à 200 ans de distance du régime napoléonien, c'est d'avoir un petit peu remis de la stabilité par l'ordre, qui est à la fois un ordre social, mais aussi l'ordre public avec l'intervention des forces dites de l'ordre.
On fait une pause, Thierry Lenz. On reprend le procès de Napoléon, si l'on peut dire, juste après.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Nous sommes toujours avec l'historien Thierry Lenz qui publie Pour Napoléon chez Perrin. Thierry Lenz, on reproche à Napoléon d'avoir rétabli l'esclavage. Ça, c'est un fait.
Ah oui, on a totalement raison. Napoléon a rétabli l'esclavage. Il a rétabli la législation de l'Ancien Régime, dont le fameux Code Noir. C'est incontestable, mais au fond, les historiens de Napoléon ne l'ont jamais contesté.
Lui-même a dit qu'il avait fait une erreur.
Ah oui, il a expliqué assez en détail à Saint Hélène ce qui s'était passé. Alors il dit qu'il n'a pas su résister, alors nous on appellerait ça au lobby colonial, au Conseil d'État qui a proposé le rétablissement de l'esclavage. Ce qui est important dans cette affaire, c'est de savoir pourquoi un homme qui avait aboli l'esclavage à Malte, qui avait aboli partiellement l'esclavage en Égypte, qui à plusieurs reprises avait refusé de rétablir l'esclavage sous le consulat, tout à coup se renie et fait exactement le contraire de ce en quoi il croit. Alors ça s'explique sans se justifier évidemment par des raisons économiques. Les îles des Antilles sont les gros producteurs de sucre à cette époque. Le sucre, c'est un peu l'équivalent du pétrole au XXe siècle. Et donc, projet économique, projet géopolitique, parce qu'en récupérant toutes les colonies, la France va posséder pratiquement toute la production de sucre mondiale. Donc c'est une tentation à laquelle Napoléon va succomber. Et puis il y a aussi nos adversaires anglais avec qui on est en train de faire la paix qui disent aux Français, mais écoutez, remettez un peu d'ordre dans vos colonies parce que bientôt, il va y avoir une contamination des colonies espagnoles et puis bientôt des colonies anglaises. Il faut...
Où l'esclavage, là, avait été maintenu.
Voilà,
hein.
Voilà la France sur laquelle on glose toujours par rapport à ces questions est quand même la nation qui a inventé l'abolition de l'esclavage. Et c'est vrai que Napoléon, le rétablissant, a, comment dire, taché sa postérité d'un point noir. Ça, c'est absolument incontestable.
Alors, on reproche également à Napoléon les guerres napoléoniennes qui auraient fait des millions de morts. Chateaubriand avait dit 5 millions.
Oui.
En réalité... Qu'en est-il ?
Oui, alors en réalité, on a du mal à compter les morts, mais bon, il faut savoir qu'il y a eu à peu près, côté français, 2 200 000 mobilisés. Donc déjà, 5 millions de morts, ce n'est pas possible.
Chateaubriand parlait des Français strictement,
Des Français. C'était le chiffre d'ailleurs qu'on donnait au moment de la Restauration pour dire, regardez cet usurpateur, le mal qu'il nous a fait. En fait, on a recompté, alors je ne vous dis pas qui, comment, parce que c'est un petit peu compliqué, mais on arrive aujourd'hui à un chiffre entre 900 millions et 1 million de morts français.
900 000, vous voulez dire.
Pardon, oui, 900 000 et 1 million de morts français. Ça ne fait pas des millions, ça fait 1 du côté français. Et un peu plus, dit-on, du côté des étrangers qui ont bien moins travaillé sur ces sujets. Disons que les guerres napoléoniennes de 15 ans font 2,5 millions de morts, qu'on va comparer à la guerre de 30 ans juste avant, qui fait à peu près 15 millions, et la guerre de 7 ans qui fait entre 1,5 million et 2 millions. Donc, on ne va pas dire que ce n'est pas beaucoup, mais si vous voulez, Napoléon n'est pas le grand massacreur du 19e siècle. Il y a eu beaucoup mieux avant lui.
Est-ce qu'il traite bien ses prisonniers, Napoléon ?
En principe, oui. Il y a une exception. Ce sont les prisonniers espagnols, parce que les Espagnols, eux, n'ont pas respecté des conventions de capitulation. Par exemple, les Français qui avaient capitulé à Bailen en 1808 ont été mis sur une île déserte et puis on les a laissés se débrouiller, ce qui fait qu'ils sont morts de faim et qu'ils se sont même dévorés entre eux à la fin. Ça, Napoléon considérait que c'était contre le droit de la guerre, et par conséquent, les prisonniers espagnols ont été mis au travail en France, et il y a beaucoup de routes de l'ouest de la France, dont une partie a été établie par ces prisonniers de guerre-là. Mais c'était relativement rare. Napoléon avait une vision, je dirais, traditionnelle et presque chrétienne de la guerre, c'est-à-dire qu'on ne faisait pas de mal à l'adversaire une fois qu'on l'avait vaincu.
Dernier reproche, enfin, pour aujourd'hui, que l'on fait à Napoléon, c'est le code civil qui aurait établi le patriarcat.
Alors, c'est vrai que le code civil donne un statut à la femme qui est inférieur à celui de l'homme. Hein, ça, on ne peut pas dire le contraire. Alors, les juristes de l'époque, ça fait hurler, mais c'est la raison qu'ils avaient trouvée à l'époque, disaient, bien sûr, il va y avoir assujettissement de la fille à son père et de la femme à son mari, mais en compensation, en contrepartie en quelque sorte, le père et le mari doivent une protection personnelle et patrimoniale à la femme. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui ça nous paraît tout à fait invraisemblable et ça nous révolte au plus profond de nous-mêmes, mais il faut savoir que ce code reprenait au fond une coutume qui venait de l'Ancien Régime et il faut dire aussi que la Révolution, contrairement à ce qu'on répète sans arrêt, n'a pas libéré la femme. C'est même tout le contraire. Les égéries féminines de la Révolution ont toutes fini sur l'échafaud ou en maison de santé, et les clubs féminins ont été dissous par la Convention. Et puis j'ajouterais aussi que si ce patriarcat, entre guillemets, avait été aussi violent à l'égard des femmes, dès 1816, on aurait vu se lever un mouvement féministe et puis une vague pour l'égalité entre les sexes, comme on disait à l'époque. Or, c'est 1965, la fin des interdits professionnels, et c'est dans les années 1970, la fin de l'inégalité juridique des femmes par rapport aux hommes. Donc vous voyez que les républiques successives se sont quand même un peu contentées de ce qu'avait dessiné le Code civil.
Dernière question, Thierry Lenz, Napoléon a-t-il laissé une France exsangue ?
Alors, la vérité m'oblige à vous dire oui après Waterloo. C'est sûr que si Napoléon avait quitté complètement la scène en 1814...
S'il était resté à l'île d'Elbe.
Voilà, s'il était resté à l'île d'Elbe, bon, on va dire que le bilan aurait été à peu près égal à zéro sur le plan des finances, bon, etc. On avait perdu des territoires, mais qu'on avait pris pendant la Révolution. 1815 est quand même une catastrophe financière. Occupation du territoire pendant 3 ans. Mais au fond, pour Napoléon, tout ça va se retourner parce que la tristesse et l'ennui que va susciter la Restauration va permettre son retour sur le devant de la scène.
Comment entendez-vous par là ?
C'est-à-dire que on va se rendre compte que cette monarchie un peu pépère avec Louis XVIII, mais est complètement réactionnaire avec Charles X, est contraire aux principes de la Révolution, dont Napoléon apparaît à juste titre, pour bien des aspects, le continuateur.
Pour Napoléon, c'est le titre de votre nouveau livre, Thierry Lenz, qui vient de paraître chez Perrin. Et je rappelle donc que le 5 mai, Emmanuel Macron commémorera le bicentenaire de la mort de l'empereur.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour Aïssa Maïga.
Bonjour Frédéric Tadei.
Je suis heureux de recevoir une actrice. Ça fait longtemps que ça ne m'est pas arrivé dans cette émission. Vous êtes l'invité d'honneur de la 43e édition du Festival international de films de femmes de Créteil qui a lieu en ce moment même. Alors en ligne évidemment sur la plateforme Festivalscope. Ça va durer jusqu'au 11 avril. Alors en tant qu'actrice, on vous a vu dans Les Poupées Russes, dans Sur la piste du Marsupilami, dans Bienvenue à Marly Gaumont, dont Il a déjà tes yeux, mais là c'est pour votre première réalisation avec Isabelle Simeoni, ça s'intitule Regard Noir, on va pouvoir le voir du 7 au 9 avril, et ce regard noir c'est celui que vous portez, ou en tout cas que portent un certain nombre d'actrices sur le cinéma français. Voilà comment il s'ouvre, je vous propose d'en écouter tout de suite un extrait, on va reconnaître des actrices comme Firmin Richard, Sabine Pacora ou Assa Sylla.
J'ai jamais pensé à devenir actrice un jour, parce que pour moi c'était impossible. T'es noire, t'es en France, il faut que tu bosses encore plus que les autres.
Au départ, ça a été pas trop de noir à la fois. C'est un peu ce qu'on entend encore de manière un peu subtile. Nous, on nous a toujours utilisé à dose homéopathique, pas trop à la fois.
Une fois, j'arrive sur un casting et tout, puis on me dit « on cherche pas de noir ».
Bon, j'ai mis un matin.
Je suis comédienne. Et voilà, il n'y a pas eu de suite, quoi. On ne cherche pas de noir. Bon, bah, voilà. Je ne savais pas que noir, c'était un rôle. Je ne savais pas que c'était... Enfin bon, voilà.
Déjà, être une femme, c'est un combat. Mais être une femme noire, c'est un combat totalement différent.
Aïssa Maïga, vous êtes d'accord avec tout ce qu'elles disent ?
Ben oui, ce qui est frappant, c'est qu'on a envie de dire de 7 à 77 ans. Les actrices noires en France vivent peu ou prou la même chose. Et elles le racontent avec beaucoup d'éloquence. Et en gardant
beaucoup d'humour,
d'éloquence. C'est un film dans lequel il y a aussi beaucoup d'émotions parce qu'elles se sont livrées et elles amorcent comme ça avec nous le début du voyage qu'on a fait avec Isabelle Simeoni en France, aux États-Unis, au Brésil, autour de cette question.
Mais en gros, aux États-Unis, on voit comment ça marchait. Il a fallu de grands rôles de personnages noirs, des personnages noirs qui font rêver, et pas seulement les noirs, qui font rêver tout le monde, et ils en ont trouvé. Et puis, sinon, il faut donner aux noirs des rôles jusque-là réservés aux blancs. Et au fond, c'est ce qui a l'air de ne pas véritablement exister en France.
Alors en France, c'est un peu particulier parce qu'on est à la fois un pays qui est très mélangé, très métissé, un pays qui est aussi le pays des droits de l'homme, et en même temps un pays dans lequel ce métissage a du mal à se traduire sur les écrans de façon sereine. Et c'est vrai que soit, en gros, si je suis un peu lapidaire, les acteurs noirs, arabes ou métis ou asiatiques, soit on les voit très très peu, soit quand on les voit, c'est dans des rôles à caractère négatif. Et dans ces rôles-là, on est souvent surreprésentés. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tellement de pointer du doigt. Avec Isabelle Simeoni, on a voulu vraiment inviter le spectateur à un voyage. Brésil, États-Unis, France, on va voir comment ça se passe ailleurs. Et l'idée, c'est aussi d'explorer, en France comme dans ces pays-là, les choses que les gens mettent en place pour qu'il y ait du progrès, pour qu'il y ait du changement. Donc c'est pas un film où on donne la leçon, mais on donne à voir ce qui se pratique, ce qui marche, et on interroge aussi notre secteur en se disant, aujourd'hui, on est face à un défi, on est en 2021, franchement, ces discussions, elles sont un peu anachroniques, et le changement, ça doit être le fait de chaque personne dans le métier.
On voit que ça a bien pu marcher, un acteur très populaire comme Kad Merad, par exemple, joue énormément de rôles qui auraient pu être tenus par quelqu'un qui n'était pas d'origine arabe. Vous-même, je me souviens de vous dans Les Poupées Russes, vous êtes la petite amie d'un des personnages, vous n'êtes pas la petite amie noire du personnage. Et ça change tout.
Absolument. Et ça, c'est vrai qu'il y a certains réalisateurs et certaines réalisatrices qui arrivent à s'émanciper de ces questions-là, comme c'est le cas de Cédric Clapiche. Mais il y a aussi le fait qu'en France, c'est souvent par le biais de l'humour. Quand on est un ou une humoriste et qu'on a vraiment du succès, d'un seul coup, on devient tellement populaire qu'on dépasse la question de la couleur de la peau. C'est aussi le cas d'Omar Sy, par exemple. Et d'un seul coup, on n'est pas uniquement noir ou pas
mais
uniquement...
Omar Sy a souvent joué en France des rôles de noir. Il a fallu la série Arsène Lupin pour que tout à coup, il joue Arsène Lupin et qu'il ne soit pas noir, enfin pas spécialement noir.
En fait, Omar Sy, c'est vraiment un cas à part parce qu'il a joué donc, dans Intouchables, c'est 21 millions de spectateurs en France. Je crois qu'il y a à peu près 3 films dans toute l'histoire du cinéma français qui ont atteint un tel succès.
Et je crois que c'est 38 millions dans le monde.
On est un peu hors compétition et il ouvre la voie avec... Lupin.
Mais c'est intéressant qu'il y ait des séries, par exemple, anglo-saxonnes comme Troie, où des dieux grecs et des héros grecs comme Achille sont interprétés par des Noirs, par exemple.
Mais oui !
Ou Bridgerton, actuellement sur
Exactement.
Netflix, où des rôles d'aristocrates du 19e siècle sont tenus par des Noirs, par
oui,
exemple.
Oui, oui, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est de se dire que le monde de la création, le monde de l'imaginaire, il peut s'émanciper du réel, il peut faire des propositions de récits qui sont beaucoup plus libres que ce qu'on nous propose. Et c'est vraiment... Enfin, moi, j'ai envie de vivre ça. Et c'est d'ailleurs ce que dit une des actrices, Mata Gabin, où elle dit qu'elle a envie de voir ce changement de son vivant. Et c'est vrai qu'encore une fois, en 2021, on ne devrait pas être face à un problème comme ça. Et moi, j'ai vraiment hâte qu'on voit ce changement et que la génération qui arrive derrière moi n'est pas à se poser ce genre de questions. C'est aussi la raison d'être du film.
Alors, cela dit, il vaut mieux être en France qu'au Brésil. Hein. Au Brésil, c'est carrément le pire. Hein. On sait tous que le Brésil, le racisme est encore terrible. Hein. Et en dépit du fait...
Alors
que...
non, on ne le sait pas tous. Je me permets de vous couper. Oui. Parce que justement, l'idée reçue, c'est qu'au Brésil, c'est une société métissée
oui, vrai,
et que tout va bien.
Oui, mais enfin, bon,
et vous le savez.
Ça, oui, bah, j'y suis allé. Alors, il suffit de savoir, quand vous voyez un noir qui rentre dans un restaurant, au Brésil,
ah, oui.
vous savez qu'il travaille dans le restaurant ou, pire encore, qu'il ne va pas manger. C'est-à-dire qu'il accompagne les enfants, par exemple, mais il ne mangera pas. C'est absolument horrible, c'est un pays très raciste, 54% de la population est noire, ça fait quand même 114 millions de personnes, mais quand on regarde les écrans brésiliens,
ah,
il n'y a pas de noir.
C'est hallucinant.
On n'imagine pas, comme dit une actrice brésilienne, on n'imagine pas un médecin noir, ou une noire ne peut pas gagner Globeletsa, le concours de danse de la chaîne Globo, parce que si elle gagne, ce qui est arrivé, elle est destituée.
Oui, c'est le cas de Nayara Justino, on a vraiment tenu à la rencontrer, elle a fait 500 km pour venir nous voir à Rio. Et Nayara Justino, donc c'est une danseuse de samba, doublée d'une actrice, c'est une très belle femme, elle est magnifique, elle est solaire, et c'est pour toutes ces raisons qu'elle a gagné le concours Globeletsa. Il faut imaginer que c'est un mélange de Miss France avec, je ne sais pas, The Voice. Et encore un autre. C'est vraiment toute la nation regarde, c'est énorme. Et c'est sur la chaîne Globo qui est hyper connue. Et en fait, Nayara est aussi noire de peau que moi. Et pour cette raison, une partie des spectateurs, des téléspectateurs, ont mené une campagne de dénigrement, mais extrêmement raciste, à tel point que Globo a décidé de destituer Nayara. Et c'est un des moments bouleversants du film, parce que c'est une fille qui est bien au-delà de ces questions-là, qui n'est pas dans une posture de victime, mais qui, pour le coup, a quand même pris de plein fouet le racisme de son pays. Et ça a été, je pense, le point de départ d'une prise de conscience de beaucoup de gens de sa génération. C'était en 2014, autant dire hier. Et on a tenu à ce qu'elle soit dans le film, aussi bien que Thaïs Araújo.
Oui.
Alors, ça ne dira rien à personne ici, quasiment, mais Thaïs Araújo, c'est comme si vous disiez Vanessa Paradis. Tout le monde la connaît. C'est une énorme star qui est connue depuis qu'elle a 14 ans. Et elle raconte, du haut de son succès, elle raconte que son pays est un pays dans lequel il y a une discrimination raciale très forte.
Ce qui n'est pas le cas de la France, heureusement. Et votre film n'est pas du tout un film de victime, c'est plutôt un film qui dit simplement « sortons un peu des stéréotypes et ça fera avancer tout le monde ».
Je peux rajouter un tout petit truc ?
Oui, bien sûr.
Alors, le film en ce moment est sur la plateforme MyCanal, mais il est aussi, durant le festival du film de femmes de Créteil, visible du 7 au 9 avril, sur la plateforme du festival. Et je suis très fière que notre film soit sur la plateforme de ce festival qui met à l'honneur les femmes cinéastes depuis 43 ans.
Le film s'intitule « Regard noir ». Il y a une quarantaine d'œuvres hein, au programme du festival, des films de fiction, des documentaires, des courts-métrages. Le prix du pass est de 15 euros seulement au lieu de 30 euros habituellement.
Europe 1.
C'est arrivé demain et terminé. On se retrouve samedi prochain après le flash. Ce sera le grand rendez-vous Europe 1 CNews, Les Échos, présenté par Mickaël Darmon. Vous recevez, Mickaël, Marlène Schiappa.
Marlène Schiappa, ministre déléguée à la citoyenneté. Elle va répondre au primat d'Ego, l'archevêque de Lyon, qui vient de sonner les cloches du gouvernement ce dimanche de Pâques.
Bonne émission, Mickaël.